Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, Michael a déjà tout dit dans l'introduction. Aujourd'hui, nous faisons les choses un peu différemment. Nous débutons le culte par la prédication et vous allez voir que c'est tout à fait à dessein. Nous aurons bien tout à l'heure un temps pour louer Dieu, mais commençons par sa parole. Alors, j'aurais juste besoin au niveau des slides. Voilà. Connaissez-vous l'histoire incroyable de Katherine Johnson ? Cette Américaine exerçait le métier de calculatrice dans les années 1950. Elle vérifiait des calculs très complexes dans le domaine de l'aéronautique à la NASA. Et malgré sa couleur de peau et le fait qu'elle soit une femme, dans un pays marqué par la ségrégation raciale, elle a su s'imposer dans ce milieu essentiellement masculin. Elle était en fait très qualifiée pour ce qu'elle faisait. Et sans doute que sans elle, la mission Apollo 11, qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune, n'aurait pas aussi bien réussi. Le prophète Ésaïe parle quant à lui d'une mission de plus grande envergure, de la plus importante mission de l'histoire de l'humanité. Et l'enjeu, quel est-il ? L'enjeu, le salut de toutes les nations. Et pour cela, il fallait une personne hautement qualifiée. Et cette personne est désignée dans notre texte comme étant le serviteur de l'Éternel. Dimanche dernier, Clément a introduit cette série de prédications sur les chants du serviteur dans le livre d'Ésaïe. Lorsque nous parlons de chants, nous voulons évoquer avant tout l'aspect poétique de ces textes. Ce sont des poèmes au sujet du serviteur de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus, comme Clément nous l'a très bien démontré. Dans ces semaines que nous vivons et qui précèdent Pâques, nous voulons une fois de plus regarder à Jésus. Nous voulons une fois de plus regarder au salut qu'il nous a apporté. Revenons sur le contexte. Pourquoi Ésaïe écrit-il ces chants du serviteur ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Pourquoi écrit-il ces chants du serviteur ? Voici une carte juste pour rappeler que ce qu'il reste à l'époque d'Ésaïe et au moment où il prophétise, eh bien, ce n'est que le royaume du sud qu'on appelle le royaume de Juda. Et c'est dans ce royaume-là qu'il prophétise. Nous nous situons dans les années 700 avant Jésus-Christ et Ésaïe a annoncé de la part de l'Éternel à ses contemporains que le royaume de Juda, cette partie sud du pays d'Israël, que le royaume de Juda connaîtrait l'exil à cause de ses infidélités répétées envers Dieu. Et comme cela était prévu dans les malédictions que nous lisons dans Deutéronome 28, en cas de désobéissance, en cas de rupture de l'alliance avec l'Éternel, le peuple de Dieu n'allait pas rester longtemps dans son pays. L'exil était une des malédictions déjà annoncées dès le Deutéronome. Et en effet, cette prophétie se réalisera à partir de 605, lorsque les Babyloniens déporteront les premiers Judéens. Mais c'est en 587 que l'événement le plus terrible se produit. Jérusalem tombe entre les mains du roi babylonien. Le temple est incendié. Les murailles sont démolies. La plus grande partie de la population part en exil. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, plusieurs années plus tôt. Ésaïe annonce donc que Dieu va châtier son peuple à cause de son infidélité. Mais à partir du chapitre 40 dans Ésaïe, la tonalité change. Les premiers mots sont « consolez ». Consolez mon peuple. Il s'agit d'encourager alors un peuple qui se sent abandonné par Dieu. Dieu les console en leur montrant qu'au-delà de l'exil, il y a un avenir pour eux. Non seulement ils vont revenir d'exil, et c'est ce que nous lisons dans les chapitres 40 à 48, ils vont revenir d'exil, ils vont partir, mais ils vont revenir. Non seulement Dieu annonce cela, mais il a en réserve une œuvre encore plus grande qui sera accomplie par le serviteur de l'Éternel. Et à partir d'Ésaïe 49, le prophète va donner plus de détails sur ce serviteur. Qui est-il réellement ? Ésaïe donne plus de détails sur ce serviteur dont nous avions déjà un premier portrait que nous avons étudié la semaine dernière en Ésaïe 42. Je sais que notre actualité comporte peu de choses réjouissantes. Des jeunes qui s'affrontent à coups de couteau. Une adolescente qui perd la vie, vraisemblablement frappée, puis jetée dans la Seine par deux autres adolescents. On nous annonce que le variant anglais est plus mortel que le virus classique. Il y a peu de choses réjouissantes dans notre actualité. Et sans ignorer cette réalité que nous vivons, sans ignorer non plus les problèmes que nous avons aussi personnellement. Écoutons cet après-midi ce que Dieu veut nous dire. Et le texte d'Ésaïe 49, qui vise à donner une espérance aux Israélites de l'époque, nous donne aussi une véritable raison de nous réjouir. Selon vous, pourquoi ce texte se termine-t-il par ces impératifs « Réjouis-toi, crie d'allégresse !» C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Oui, réjouissons-nous, parce que Dieu avait prévu d'accomplir par son serviteur son plan de salut pour toutes les nations. Réjouissons-nous, parce que Dieu avait prévu d'accomplir par son serviteur son plan de salut pour toutes les nations. Et si il est pour toutes les nations, eh bien, cela nous concerne aussi. Commençons par parler du serviteur. Un serviteur parfaitement qualifié. Et d'ailleurs, c'est lui qui prend la parole et qui nous interpelle. Verset 1. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Au chapitre précédent, chapitre 48, Dieu avait interpellé son peuple. Écoutez cela, famille de Jacob. Et puis ici, au chapitre 49, le serviteur interpelle les îles, interpelle les peuples lointains, lointains par rapport à Israël, autrement dit les autres nations. Et nous en faisons partie. Ce message nous est donc adressé. Alors, écoutons-le. Qu'est-ce que le serviteur veut dire au peuple lointain? Et dans les premiers versets, il apparaît clairement que le serviteur joue le rôle qu'il a parce que l'Éternel l'a appelé. Et il l'a appelé avant sa naissance. D'autres hommes dans la Bible ont été préparés avant leur naissance pour la mission que Dieu avait pour eux. C'est le cas du prophète Jérémie, consacré à Dieu avant sa naissance. Vous lisez cela dans Jérémie, chapitre 1, verset 5. C'est le cas de Paul, qui écrit aux Galates que Dieu l'avait mis à part avant sa naissance pour être l'apôtre des non-juifs. C'est ce que vous lisez dans Galates, chapitre 1, verset 15 à 16. De la même manière, le serviteur de l'Éternel est né pour accomplir cette mission que Dieu va lui confier. Et au verset 2, nous avons deux images pour évoquer son ministère en tant que prophète. D'abord, sa bouche est comparée à une épée tranchante. Ailleurs, dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui est comparée à une épée à double tranchant. La parole du serviteur sera donc parole de Dieu, efficace et pénétrante. Nous lisons en Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu dévoile ce qui est au plus profond de nous. Et ensuite, la deuxième image rejoint cette même idée, celle d'une flèche aiguë. capable de percer. Et comment comprendre cette parole ? Il m'a caché dans son carquois. Le serviteur, en quelque sorte resté caché, ne paraîtra qu'au moment fixé par l'Éternel, au moment que Dieu aura décidé. Et le serviteur continue, verset 3, il m'a dit, donc Dieu a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. » Alors, je crois que ça ne fonctionne plus. Voilà. Nous devons nous arrêter sur cette parole. « Tu es mon serviteur, Israël. » Le serviteur est appelé ici Israël. Et plusieurs ont pensé qu'il était question du peuple d'Israël. Mais nous avons bien vu la semaine dernière que le serviteur désignait une personne appelée à faire alliance avec le peuple. Donc ici, Israël ne désigne pas le peuple en question. Mais alors pourquoi appeler le serviteur Israël ? Dieu dit que c'est par son serviteur qu'il montrera sa splendeur, qu'il sera vraiment glorifié. Or, lorsque nous lisons le chapitre 48, et bien d'autres textes en parlent, nous savons combien le peuple d'Israël était fréquemment infidèle et tournait facilement le dos à Dieu. Regardons Ésaïe 48, verset 1. Si on peut juste afficher, je crois que ça ne fonctionne plus. Écoutez cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda. Vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Voilà la description d'un peuple infidèle, capable de se tourner vers des idoles, qui porte le nom d'Israël, mais qui n'en est pas digne. Vous qui portez le nom d'Israël, et qui évoquait le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Israël n'est pas digne de porter ce nom-là. Le peuple d'Israël est passé à côté de sa vocation en tant que peuple de Dieu, mais il n'en sera pas de même du serviteur de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, lui, est digne de porter le nom d'Israël. Il est finalement le seul a mérité ce nom. Et c'est par lui que Dieu sera glorifié. Tu es mon serviteur, Israël. Ce serviteur est fidèle. Il compte sur Dieu. Regardez par exemple le verset 5. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Ce serviteur a clairement la faveur de Dieu. Et observez encore avec quel soin l'Éternel s'occupe de lui. Verset 8, voici ce que dit l'Éternel, au moment favorable je t'ai répondu. Le jour du salut je t'ai secouru, je te protégerai et je t'établirai. Que peut-on encore ajouter ? Eh bien que le serviteur est parfaitement qualifié, lui qui a été formé pour être au service de Dieu. Et à deux reprises l'Éternel dit à son sujet qu'il l'a établi. D'abord, verset 6, « Je t'établis pour être la lumière des nations. » Et puis au verset 8, « Je t'établirai pour faire alliance avec le peuple. » Ces expressions étaient déjà présentes dans le premier chant d'Ésaïe 42. « Lumière des nations, alliance avec le peuple. » Le serviteur de l'Éternel est parfaitement qualifié, approuvé par Dieu pour une mission de grande envergure, qui ne concerne pas seulement le peuple d'Israël, mais aussi toutes les autres nations. Et quelle joie pour nous! Quelle joie pour nous de savoir que Jésus est effectivement ce serviteur hautement qualifié. C'est bien à son sujet que Dieu le Père dit lors du baptême de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » C'est bien à son sujet que Dieu le Père dit cela. Et c'est bien Jésus qui est comparé à Israël. C'est en tout cas ainsi que Matthieu le présente dans les premiers chapitres de son évangile. Et bien sûr, le temps me manque pour en faire une plus ample démonstration. Mais voici quelques exemples que j'aimerais montrer. Lorsque le roi Hérode, à l'époque de Jésus, a voulu mettre fin à la vie de Jésus qui était encore enfant, eh bien Jésus a dû fuir avec ses parents, a dû fuir en Égypte. Et d'après Matthieu, eh bien cet événement a été comparé, enfin il a comparé cet événement à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. On peut montrer la slide suivante. Cette fuite de Jésus en Égypte a été comparée à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Comme si finalement Hérode jouait le rôle du pharaon et que Jésus a dû quitter son propre pays comme le peuple a quitté l'Égypte. Deuxième exemple, quand Jésus, cette fois-ci adulte, s'est rendu dans le désert et a été tenté par le diable, il est resté 40 jours. Et le parallèle est vite trouvé avec les 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert, au temps de Moïse. Jésus a été mis à l'épreuve et a résisté à la tentation. Là où le peuple d'Israël avait lui-même échoué de nombreuses fois. Ces deux exemples suffisent pour montrer que Jésus est Israël tel qu'il devait être. Il est le serviteur que le peuple d'Israël n'a pas pu être. Et c'est bien à Jésus qu'il nous faut regarder. C'est bien à Jésus qu'il nous faut regarder quand nous constatons nos propres échecs. Quand nous constatons combien nous ne sommes pas à la hauteur quand il s'agit d'obéir à Dieu. C'est à Jésus que nous devons regarder parce que lui est à la hauteur. J'aimerais vous exhorter encore cet après-midi à regarder à lui quand nous servons Dieu, mais que notre préparation d'une étude biblique, d'une présidence ou d'une prédication est si imparfaite. Regardons à lui quand nous servons Dieu, mais que notre préparation est tellement imparfaite. Jésus, lui, a servi Dieu parfaitement. Et regardons à lui quand nous avons tellement de mal à trouver le temps de prier ou de lire la Bible. Jésus a toujours réussi à trouver du temps pour prier son Père. Et il connaissait très bien la parole de Dieu. Là où nous sommes encore capables d'échouer, nous avons en Jésus un serviteur parfaitement qualifié. Et qualifié pour quoi ? Qualifié pour nous sauver. Qualifié pour accomplir la plus importante des missions. Et c'est pourquoi notre assurance du salut ne peut jamais se fonder sur ce que nous faisons, même si nous le faisons très bien. Notre assurance du salut ne peut jamais se fonder sur ce que nous faisons, même si nous le faisons très bien. Ce qui compte, c'est que notre assurance du salut repose uniquement sur l'œuvre de Christ, notre Sauveur parfait. Ce qui compte pour notre salut, ce n'est pas que nous fassions les choses parfaitement, mais que Christ a été à la hauteur jusqu'au bout. Il nous fallait quelqu'un qui obéisse parfaitement à Dieu. Et Dieu avait prévu ce serviteur qualifié en la personne de son Fils, Jésus. Donc, un serviteur parfaitement qualifié pour une mission qui concerne l'humanité. Et justement, arrêtons-nous à présent sur la mission du serviteur. Nous devons d'abord souligner que le serviteur ne trouve pas cette mission facile. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit à ce sujet ? Verset 4. Voici ce qu'il dit au sujet de sa mission. « Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Est-ce que vous avez entendu les mots utilisés? Ils sont suffisamment forts pour que nous comprenions combien cette mission peut être parfois décourageante. Le serviteur n'aura pas la tâche facile. Son ministère de prophète, son ministère de porte-parole de Dieu ne trouvera pas toujours des cœurs bien disposés et prêts à écouter son message. Au contraire, certains seront durs avec lui jusqu'à vouloir sa mort. Et au verset 7, nous lisons que le serviteur sera méprisé et fera horreur à sa propre nation. Mais ce qui est remarquable, c'est la confiance que le serviteur a en l'Éternel. Et je reviens au verset 4. « Pourtant, dit-il, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Le serviteur sait qu'en termes de résultats, il peut avoir l'impression que c'est en pure perte qu'il se donne de la peine. Mais son service n'est pas vain aux yeux de Dieu. Son service compte aux yeux de Dieu. Son service accomplit le plan de Dieu. Et c'est pourquoi le serviteur compte sur Dieu. Ésaïe évoque déjà dans ce chapitre les souffrances que le serviteur connaît dans sa mission. Et ce sont les troisième et quatrième chants qui développeront davantage ce thème du serviteur souffrant. La mission n'est donc pas facile, et le serviteur devra supporter le mépris des hommes. Mais verset 4, ma récompense est auprès de Dieu. Et la suite du verset 7 rapporte ce que Dieu dit à son serviteur. Voici une de ses récompenses. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Après avoir été humilié, le serviteur reçoit la promesse d'être élevé. Et quelle est encore sa récompense? Verset 6. Dieu dit à son serviteur, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Si beaucoup en Israël ne voudront pas l'écouter, d'autres, issus des nations non israélites, seront prêts à le suivre. Non seulement le serviteur a pour mission de ramener le peuple d'Israël à Dieu, du moins de ramener un reste, parce que certains ne voudront pas l'écouter, mais le serviteur reçoit aussi la mission d'être la lumière des nations. Il reçoit la mission d'éclairer les peuples au sujet de Dieu. Et cela passera par son enseignement. Le serviteur dira les paroles de Dieu de telle sorte que les nations connaîtront Dieu. Et l'image de la lumière peut aussi évoquer le salut. Le salut, puisque ceux qui passent de ténèbres à la lumière passent de la mort à la vie. Donc la lumière peut être image du salut également. Et effectivement, c'est Jésus qui apportera ce salut et qui enverra ses disciples annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est parfaitement qualifié pour cette mission qui consiste à sauver des hommes et des femmes issus de toutes les nations. Et c'est pourquoi il dit en son temps à ses auditeurs, ce que nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Alors, ce n'est pas moi, Philippe, c'est Jésus qui le dit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et vous comprenez que cette image de la lumière du monde est issue du chant du serviteur. Et Jésus, ici, est en train de dire, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », il est en train de dire « Je suis le serviteur de l'Éternel ». Et que dire des versets 8 à 12 ? Eh bien, il parle aussi de la mission, de l'œuvre du serviteur qui fera alliance et comprenez une nouvelle alliance avec le peuple composé d'Israël, mais pas seulement, composé également des gens qui viennent du nord, qui viennent de l'ouest ou encore du pays de Sinim. Et en fait, nous ne savons même pas où est Sinim. Certains suggèrent qu'il s'agit d'une région du sud. Et d'autres disent même que c'est l'ancien nom de la Chine. D'où des mots comme « sinophone ». En tout cas, il est question de gens qui viennent d'ailleurs, de toutes les directions. Et c'est le serviteur de l'Éternel qui conduira ces gens, qui établira cette nouvelle alliance avec ce nouveau peuple, comme Moïse l'avait fait autrefois avec Israël. Le serviteur sera donc un nouveau Moïse. Nous l'avons déjà dit la semaine dernière. C'est lui aussi qui partagera le pays avec ce nouveau peuple. Et qui a fait cela dans l'histoire d'Israël, si ce n'est Josué, le successeur de Moïse? Et en cela, le serviteur est aussi un nouveau Josué. Si je vous dis tout cela, c'est pour vous montrer que, dans une certaine mesure, ces personnages tels que Moïse et Josué, qui ont servi Dieu, ces personnages annonçaient quelqu'un de plus grand encore. Notre Seigneur Jésus. Parfois, nous pouvons avoir beaucoup d'admiration pour ces héros de la foi. Mais notre Seigneur Jésus mérite encore plus d'admiration. Lui, le serviteur parfaitement qualifié. Et comme nous l'avons vu aussi dans le premier chant du serviteur, c'est lui qui libérera les captifs et ceux qui sont dans les ténèbres. Il sera leur guide, tel un berger qui s'occupe soigneusement de son troupeau. Et à bien des égards, lorsque je lis ces versets-là, je pense au psaume 23 aussi. Le psaume 23 qui commence par « L'Éternel est mon berger ». Et ensuite, « Je ne manquerai de rien ». Et effectivement, regardez comment ce peuple qui sort des ténèbres trouve sa nourriture, son eau, de telle sorte qu'il n'aura ni faim, ni soif, de telle sorte que la chaleur ne sera pas éprouvante. Et toutes ces images nous rappellent que Dieu s'est engagé à prendre soin de son peuple pour qu'il ne manque de rien. Et à quel moment de l'histoire passée le peuple d'Israël a-t-il bénéficié d'autant de soins ? À quel moment ? N'est-ce pas au moment de l'Exode, lorsque le peuple était dans le désert avec Moïse après sa sortie d'Égypte ? Alors là aussi, nous avons un parallèle de nouveau. L'œuvre du serviteur est présentée ici comme un nouvel Exode, puisque le serviteur est lui-même un nouveau Moïse. Est-ce que vous voyez les parallèles ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de poèmes et il faut pouvoir en apprécier toutes les images pour considérer combien la description de ce serviteur est incroyable, surtout lorsqu'on sait de qui il s'agit. Et si Ésaïe écrit tout cela, c'est pour encourager ses contemporains à croire encore en Dieu. En Dieu qui va faire une œuvre semblable au premier Exode. Mais bien sûr, cette œuvre de salut va être d'une plus grande ampleur. En effet, Jésus est venu pour libérer son peuple de l'esclavage du péché. Et ce problème ne concernait pas uniquement Israël, mais tout être humain. C'est un problème qui concerne encore le monde d'aujourd'hui. Et Jésus est ce serviteur hautement qualifié pour régler ce qui est le plus grand problème de l'humanité, le péché qui sépare l'être humain de Dieu. Et le quatrième chant du serviteur, ainsi que le reste de la Bible, nous montre comment ce problème a été réglé. Par la mort du serviteur à la croix. Parce que Jésus a accepté sa mission de mourir pour nos péchés. De donner volontairement sa vie pour qu'une fois notre dette du péché payée, Dieu puisse nous pardonner. Et qu'ainsi nous soyons réconciliés avec Dieu. Et cela est accordé à celles et ceux qui reconnaissent leur problème avec le péché. Cela est accordé à celles et ceux qui comptent uniquement sur la solution que Dieu a apportée. Il était nécessaire que cette solution passe par la mort et la résurrection de Jésus. C'est le message de l'Évangile pour toutes les nations. Et si personnellement tu n'as pas encore placé ta confiance en Dieu pour recevoir son salut, aujourd'hui est encore un jour favorable. Considère encore le plan de Dieu et comment il a planifié au moment fixé d'envoyer Jésus. Considère que Jésus est celui qui dit aux captifs « Sortez !» Sors de cette vie sans Dieu. Sors de cette vie qui mène à la mort et marche à sa lumière. Il n'y a rien de bon pour toi dans les ténèbres. Et celui qui veut te donner la vie éternelle est un bon guide. Celui qui a accepté de porter sur lui tes péchés t'appelle à sortir et à commencer une nouvelle vie avec lui. Si tu décides aujourd'hui de sortir de ta vie sans Jésus, c'est alors que ta vie ne sera plus comme avant. Jésus est la lumière des nations, et celles et ceux qui le suivent ont déjà vu leur vie transformée. Et peut-être que tout à l'heure, quelqu'un voudra le témoigner lors de l'open mic. Celles et ceux qui suivent Jésus ont déjà vu leur vie transformée. Nous avons vu jusque-là que le serviteur de l'Éternel est parfaitement qualifié pour la mission qui lui est confiée et qui a pour enjeu le salut d'hommes et de femmes issus de toutes les nations. Et après avoir dit tout cela, comment pouvons-nous répondre à la parole de Dieu ? Un serviteur parfaitement qualifié pour une mission qui concerne l'humanité, que Dieu soit loué. Vous observerez les rimes que j'ai essayé de mettre en place. Un serviteur parfaitement qualifié pour une mission qui concerne l'humanité, que Dieu soit loué. Et c'est à cela que j'aimerais vous conduire encore pour ce dernier temps. Nous avons vu la semaine dernière qu'après le premier chant du serviteur, il y avait un appel à la louange. Un appel à pousser des cris de joie, comme lorsqu'on nous annonce une délivrance. Et ici, de la même manière, au verset 13, la création, le ciel, la terre, les montagnes sont appelées à se réjouir, à éclater en cris de joie à cause du salut de Dieu, à cause de sa compassion. Et le texte se termine sur une tonalité de joie, comme je l'ai dit au début. Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Pour quelle raison ? En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Cela fait un an que nous parlons du coronavirus. Nous avons vécu des confinements. Et nous vivons actuellement sous la contrainte d'un couvre-feu, sans parler des gestes barrières. Et du fait que nous devions toujours faire attention. Songez maintenant que demain nous apprenions que la pandémie est terminée, que la vie normale peut reprendre, que nous pouvons de nouveau vivre sans masque, sans la crainte d'attraper le virus ou de contaminer quelqu'un. Quelle serait votre réaction ? J'imagine beaucoup de joie. Eh bien, ce que ce texte d'Ésaïe 49 nous dit du serviteur et de son œuvre de salut doit susciter en nous encore plus de joie. Car ce que nous avons en vue, ce n'est pas la fin d'une maladie, mais une vie sans fin aux côtés de notre Sauveur. En cette période qui précède Pâques, c'est le moment idéal pour nous focaliser de nouveau sur ce que Jésus a fait pour nous. Et comme chaque année, nous passerons par plusieurs états d'âme. La tristesse, quand nous penserons aux souffrances de Jésus à cause de nos péchés. Une émotion vive, quand nous penserons à son agonie sur la croix. La joie quand nous penserons à la résurrection de notre Sauveur, qui triomphe ainsi de la mort. Aujourd'hui aussi, le verset 13 d'Ésaïe 49 va dans le sens de l'allégresse. Et qui devons-nous acclamer si ce n'est celui qui a planifié un si grand salut pour nous qui ne le méritions pas. Nous allons avoir dans un instant un moment avec des chants et des prières. Et ce sera l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance, toute notre joie. Car Dieu n'a pas délaissé son peuple. Dieu n'a pas délaissé Israël. Et dans sa grâce, ce peuple est aussi composé des autres nations dont nous faisons partie. La compassion que Dieu a manifestée à l'égard d'Israël, il l'a aussi manifestée envers nous. Alors tout à l'heure, quand nous élèverons la voix pour célébrer Dieu, ne nous retenons pas dans l'expression de notre joie. C'est pour cela que nous sommes rassemblés cet après-midi, pour le célébrer de tout notre cœur. Et si nous n'avons pas forcément le cœur en joie, nous ne pouvons que compter sur l'Esprit qui produit ce fruit qu'est la joie. Nous ne pouvons pas créer cette joie ou la fabriquer, si ce n'est de manière superficielle, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que cette joie puisse être réelle. Catherine Johnson a contribué en son temps, avec d'autres, à ce qu'un homme fasse sur la Lune un grand pas pour l'humanité. Le serviteur de l'Éternel, Jésus, a contribué à l'accomplissement d'un grand salut pour l'humanité. Lui seul était qualifié pour réussir cette mission. Et c'est pour cela que nous avons de très bonnes raisons de nous réjouir. Parce que Dieu avait prévu d'accomplir par Jésus son plan de salut pour toutes les nations. C'est-à-dire aussi pour nous. Et j'aimerais terminer en lisant ce qui est écrit après le verset 13. Nous avons étudié Ésaïe 49, du verset 1 à 13, mais qu'y a-t-il après le verset 13? Eh bien, il y a le verset 14 et suivant. « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Ces paroles nous rappellent l'incroyable amour que Dieu a pour son peuple. Sion, qui est un autre nom pour Jérusalem, se sent abandonné et oublié. Et pourtant, Dieu lui dit qu'il l'aime encore plus que ne le ferait une mère. Et qu'il ne l'oubliera pas. Si certains d'entre nous avons reçu beaucoup d'amour de la part de notre mère, eh bien considérons que l'amour de Dieu est encore supérieur. Et pour ceux qui n'ont pas forcément reçu beaucoup d'amour de la part de leur mère, eh bien considérez que Dieu aime encore plus qu'une mère et qu'il ne t'oubliera pas. Cet amour, mes amis, Dieu nous l'a bel et bien montré en envoyant Jésus, son serviteur, son fils, mourir pour des pécheurs comme nous. Alors oui, en ce dimanche, réjouissons-nous. En ce dimanche, réjouissons-nous. Et tout au long de notre vie, le salut que le Seigneur a accompli pour nous sera toujours, toujours une excellente raison de nous réjouir. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons que ta joie nous inonde et que tu nous montres pour quelles raisons nous faisons bien de nous réjouir, parce que tu as accompli un grand salut par l'intermédiaire de ton serviteur, par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier pour cela, parce que tu as déployé tellement, tu as utilisé ta puissance pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Alors s'il te plaît Seigneur, accorde-nous de pouvoir te louer de tout notre cœur. Accorde-nous de pouvoir t'adresser ce culte avec tout notre être. Et que ton esprit nous vienne en aide pour produire cette louange à ta gloire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.